Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la déco et du bricolage en France. On a une analyse assez récente, on va essayer de voir ce qui se passe vraiment derrière les chiffres. Notre objectif, si vous voulez, c'est de comprendre un peu la dynamique de ce secteur. C'est assez particulier, il y a un repli post-Covid, c'est clair, mais on voit aussi des petites zones de croissance assez étonnantes. C'est ce mélange qu'on explore.
Oui, c'est un bon point. En fait, si on regarde juste le mobilier domestique, le marché a baissé de 5,1% entre 2023 et 2024. Ça représente 13,8 milliards d'euros. Et sur l'ameublement total, on atteint 17,6 milliards. Donc la baisse, elle est quasi partout. Le jardin, par exemple, c'est moins 8,4%. La salle de bain, moins 7,2%. On est loin, très loin de l'euphorie de 2021-2022.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui explique ça concrètement? C'est juste un retour à la normale après l'excès ou il y a autre chose? Et les consommateurs, ils achètent comment maintenant?
Bah, il y a plusieurs facteurs macro, hein. La crise de l'immobilier, évidemment, ça bloque pas mal de projets d'aménagement.
Oui, forcément.
Et puis l'inflation, hein, la baisse du pouvoir d'achat, tout ça, ça pèse. Concrètement, ça veut dire moins de transactions, à peu près moins 7%.
Ah oui.
Et le panier moyen, lui aussi, diminue. On passe de 187 euros à 177 euros.
D'accord.
Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder le type de dépenses. Les gros achats, disons au-dessus de 500 euros, là, ça s'effondre. Moins 21%.
Carrément.
Par contre, les toutes petites dépenses, moins de 100 euros, ça augmente de 14%. Les gens achètent moins cher, peut-être plus sur un coup de cœur ou l'essentiel.
Ce plus 14% sur les petits paniers, c'est quand même fou dans un contexte général de baisse. Est-ce que l'arrivée de nouveaux acteurs comme Temu, par exemple, ça a un impact là-dessus?
Ah oui, absolument. Temu, ils ont vraiment bousculé les choses. Ils ont pris 9 points de part de marché en valeur depuis 2023 sur les petits objets déco, le petit mobilier.
9 points, c'est énorme.
C'est énorme, oui. Leurs recettes, des prix très très bas, 30-50% moins chers que les enseignes classiques, et une stratégie digitale super agressive.
Donc grosse pression sur les prix pour tout le monde.
Exactement. Et ça favorise l'achat d'impulsion en ligne. D'ailleurs, l'e-commerce pèse maintenant 24% du marché global, ça fait 3,5 milliards d'euros.
Mais en même temps, les Français restent attachés en magasin physique, non?
Oui, très. 76,4% disent vouloir voir et toucher les produits. C'est une grosse différence avec les Britanniques, par exemple, où un tiers préfère le tout en ligne. Il y a cette tension, vous voyez.
C'est fascinant, oui, ce mélange digital-physique. Mais bon, malgré ce contexte un peu morose, vous disiez qu'il y avait des poches de croissance. Où est-ce qu'on les trouve alors?
Alors, c'est là que ça devient surprenant. Par exemple, le secteur pour les animaux de compagnie, le pet care, ça cartonne. On attend plus 6% pour 2024-2025.
Ah oui, parce qu'on les considère comme des membres de la famille?
C'est exactement ça. D'ailleurs, la Redoute, où apparemment 60% des clients ont un animal, ils investissent ce créneau. Et puis, autre surprise, le linge de maison.
Le linge de maison?
Oui. Les volumes mis sur le marché ont augmenté de 9,3% en 2024. Et pour le linge de lit, c'est même plus 14,8%. Énorme progression.
Incroyable. Et la technologie, elle s'invite aussi de plus en plus chez nous, j'ai l'impression.
Tout à fait. Le marché de la Smart Home, la maison connectée, est en pleine explosion. On parle de 183 milliards de dollars au niveau mondial pour 2024.
Et qu'est-ce qui motive les gens? Le confort? Les économies?
Les deux, en fait. Surtout les économies d'énergie, et puis le confort, la facilité. Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui débarque aussi dans ce secteur.
L'IA, comment?
Bah, pour aider à la conception des espaces, optimiser la production des meubles. Et pour le client, ça permet la personnalisation via des configurateurs en ligne ou la réalité augmentée. Vous savez, cette techno où on peut voir le meuble dans son salon avec son smartphone.
Ah oui, je vois.
Sans oublier l'éco-conception qui devient hyper importante. Et puis, l'influence des réseaux sociaux sur les objets de tendance, genre les lampes champignons, les miroirs organiques.
D'accord. Alors, face à tout ça, les nouveaux comme Temu, la tech, les animaux, comment s'en sortent les grands noms historiques? But, Conforama, Ikea, Maison du Monde.
Eh bien, c'est très contrasté. Ikea reste le leader, hein. 37% des transactions, les ventes ont même augmenté de 8%.
Ah oui.
Mais leur panier moyen baisse de 9%. Ils vendent plus, mais moins cher à chaque fois. À l'inverse, un acteur comme Tikka Moon, qui est sur le durable, le bois massif, eux, leur panier moyen grimpe de 18%.
Intéressant.
But et Conforama, même s'ils sont groupés, ils perdent un peu de terrain et les paniers moyens baissent d'environ 11%. Et Maison du Monde, c'est plus compliqué. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 était en recul de 8,5%.
D'accord. Et il y a des plus petits qui montent.
Oui, on voit des acteurs comme Sustraingroin, par exemple, qui affichent de grosses ambitions de croissance en Europe. Le paysage bouge beaucoup.
On a donc une image très fragmentée. Certains souffrent clairement, d'autres arrivent à tirer leur épingle du jeu, soit en s'adaptant, soit en misant sur des niches qui marchent bien.
C'est tout à fait ça. Ce qui est frappant, c'est cette tension. D'un côté, une contraction globale à cause de l'économie, et de l'autre, une vraie effervescence sur des segments très précis. Les animaux, la maison connectée, la personnalisation, le durable et le digital, l'IA. Ce ne sont plus juste des gadgets. Ça change vraiment la façon dont on choisit, on achète et même comment on fabrique les choses.
Donc, si on résume, le budget global pour la maison se réduit un peu, mais l'envie d'avoir un intérieur qui nous plaît, elle, est toujours là. Simplement, on l'exprime peut-être différemment. Par le DIY, des petits objets déco pas chers, ou en intégrant de la tech.
C'est une bonne synthèse, oui. Le grand défi pour les entreprises, c'est de passer d'un modèle où on vendait juste des produits à un écosystème qui propose des solutions, des services plus perso, plus durables, connectés. Le client devient presque un co-créateur de son intérieur.
Et ça soulève une question pour finir. Cette tension entre le budget limité et ce désir d'un intérieur unique, personnalisé, mais aussi durable et intelligent. Comment ça va vraiment changer les offres qu'on verra demain? Est-ce que l'IA va vraiment démocratiser le design sur mesure pour tout le monde ou est-ce qu'elle va surtout renforcer les plus gros acteurs? Voilà, ça laisse à réfléchir.